Voilà, donc il s'agit de répondre à quelques questions. Et la première question, c'est le lieu d'exercice.
Voilà. Alors, est-ce que, en tant qu'hypnothérapeute, d'être proche de la gare, ça vous amène des patients qui viennent de plus loin que Mâcon?
Alors, non, non, je
C'est.
pense pas. Et c'est une discussion que j'ai eue avec une camarade hypnotiseuse il y a quelques temps. C'est que si elle avait réfléchi à monter son cabinet comme on monte un restaurant, une boutique ou quelque chose comme ça, elle aurait étudié le passage, elle aurait étudié comment c'est desservi, etc. Mais finalement, c'est une question qu'on ne se pose pas, peut-être à tort. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ça fasse une différence. J'ai peu de gens qui viennent de loin, ça arrive, mais souvent parce qu'ils ont de la famille sur Mâcon ou qu'ils profitent d'un déplacement professionnel. Mais les gens viennent généralement en voiture.
D'accord. Et est-ce que vous aviez déjà pensé à exercer dans une maison de santé pour
J'y ai pensé et c'était pas, ça me paraissait pas avantageux en fait. Pour tout un tas de raisons déjà pratiques, comme vous le savez, je travaille dans mon appartement, donc ça fait des charges en moins, donc c'est pas mal. Une maison de santé, c'est un loyer, c'est être associé à des professions qui sont pas forcément si proches que ça de l'hypnose. C'est des contraintes parce qu'il faut des salles d'attente séparées. Bon, ça m'a pas paru intéressant pour moi. Après, peut-être que pour d'autres, ça peut être intéressant. Il y a des systèmes où on peut louer des salles à la séance. Enfin, ça existe dans certaines villes.
D'accord. Concernant toujours le lieu d'exercice, votre lieu idéal, c'est-à-dire la région, la ville, pour vous, quel est votre idéal de lieu d'exercice?
Alors, le lieu idéal, c'est là où je suis en ce moment, parce que je m'y sens très bien, en fait. Il y a quelques inconvénients pour l'accessibilité. Il n'y a pas d'accès handicapé, donc ça m'arrive de me déplacer chez les gens quand il y a un fauteuil roulant, quand il y a des choses comme ça. C'est pas souvent. Il y a 5 étages avec un ascenseur qui est assez exigu. Mais c'est pratique pour moi, c'est pratique pour les transports, pour mon fils, pour la scolarité. C'est une ville qui est à taille humaine, Mâcon. Moi, je m'y sens bien.
Et avez-vous déjà pensé de proposer des séances d'hypnose en forêt, dans la nature, auprès d'un ruisseau, près de
Oui,
l'eau,
ça
de l'eau?
m'arrive, ça m'arrive de le faire. À un moment, je le faisais au parc à Pontvel. Je ne sais pas si vous connaissez, où il y a la petite rivière qui
Le
serpente, il y a
château,
des petits ponts, il y a le
les
château,
ponts,
donc
c'est
c'est
très
très,
beau.
très sympa. C'est très inspirant parce que bah, la forêt, les oiseaux, le fait d'être dehors, c'est déjà quelque chose qui rend disponible, qui rend tranquille. Et de temps en temps, au bord de la Saône, parce qu'on marche 10 minutes et puis on est au bord de l'eau. Donc c'est un bon support, les séances en extérieur. Les gens sont pas toujours partants pour ça parce qu'ils aiment bien la confidentialité. Je pense qu'ils aiment bien qu'il y ait des murs, que l'espace où on va travailler, ce soit quelque chose physiquement protégé, quoi.
Après, c'est peut-être des personnes qui sont déjà venues vous voir dans un premier temps, qui s'inscrivent peut-être pour des séances.
Ouais, c'est ça, et puis parce qu'on se connaît bien, parce qu'on a l'habitude, ou des cas particuliers d'une personne qui aurait des problèmes pour aller dehors, pour se confronter à la foule, c'est de faire la séance en marchant dans la rue, quoi. Ouais. Mais ça reste exceptionnel. Par habitude, par routine, je pense. Mais le simple fait d'être dehors et d'utiliser comme support l'eau, les nuages, les arbres, enfin, il y a déjà une histoire qui se raconte, quoi. C'est une solution parce que ça coûte rien. Après, je dirais que 6 mois par an dans notre région, c'est pas trop praticable, quoi. Ou alors, il faut être dans un truc exposition au froid ou vraiment comme les gens qui font du tai chi à la chinoise, c'est avant le lever du soleil, dehors par tous les temps, toute l'année. Pourquoi pas? Ça répond à votre question?
Oui,
Ouais?
très bien,
Ok.
merci. Alors, en fait, comme je suis venue me renseigner sur comment devenir hypnothérapeute, les formations, en fait, est-ce que vous diriez qu'il y a des formations, parce qu'il y a une formation obligatoire en tant qu'hypnothérapeute?
Alors, il n'y a aucune réglementation à l'heure actuelle sur l'hypnose, mais vraiment aucune, hein. Et quand je dis qu'il n'y a aucune réglementation, ça veut dire que c'est possible de vous installer aujourd'hui, vous mettez une plaque ou vous vous dites autour de vous que vous, maintenant vous faites de l'hypnose, vous avez le droit de le faire. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je crois pas. En tout cas, il y a quand même un standard qui est pas un standard légal, mais il y a quand même un standard de niveau de formation qui est assez homogène en termes de ce qu'on considère qu'un hypnothérapeute doit savoir faire. C'est-à-dire mener un entretien de début de séance, poser les questions, écouter, avec tout ce que ça comporte d'apprentissage, de faire taire sa propre voix intérieure, pour être vide de toute, autant que possible, de toute projection, de projeter mon histoire sur les autres. Par exemple, en tant qu'ancien fumeur, la tentation de dire que c'est comme ça que ça se passe, elle est présente. Et bien sûr, maîtriser, connaître les différentes manières de mettre une personne en hypnose, et puis qu'est-ce qu'on fait quand la personne est en hypnose. Et là, il y a une offre extrêmement abondante en termes de formation, donc c'est très dur de s'y retrouver. Il y a quelques organismes qui sont connus, qui sont représentés dans un peu toutes les villes, je pense à des gens comme l'Arche ou Psynaps ou des boîtes comme ça, où les formations sont quand même assez égales en termes de qualité et relativement satisfaisantes pour ce qu'on en attend. Après, j'irai pas jusqu'à dire que la formation initiale suffit pour apprendre le métier, mais là on rentrerait dans des débats qui sont assez passionnels dans le monde de l'hypnose. Des gens qui vont dire il faudrait un minimum de temps d'heure, il faudrait étudier la psychopathologie, d'autres qui vont dire non, ça sert à rien. Enfin, chacun va prendre la théorie qui l'arrange, bien sûr. Mais il y aurait des gens qui font une vague formation en ligne à 30€ et qui s'installent, je crois pas qu'il y en ait tant que ça. La plupart des gens ont quand même une certaine lucidité par rapport à la complexité que ça représente. Quoi.
D'accord, il n'y a pas de formation à éviter
Je pense qu'il y en a, mais alors lesquelles?
Il y a tellement en fait, de publicité, des appels, ouais. Notamment par exemple on m'a appelé pour... utiliser mon compte de formation en sophrologie, ouais. Par exemple.
Ouais, voilà.
Mais est-ce qu'on peut s'y fier?
On ne peut pas s'y fier aveuglément, non, c'est sûr. Le fait que ce soit financé par la CELIC ou par des... Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces organismes-là, ce n'est pas un gage de qualité, malheureusement. Il y a eu beaucoup d'abus, il y en a un peu moins aujourd'hui, mais il y a eu quand même des choses assez fantaisistes qui ont été financées avec de l'argent public. Donc, savoir à quelle formation on peut se fier, sachant que la formation, il y a la formation, il y a le contenu, il y a les capacités, le niveau de départ des personnes qui viennent apprendre, il y a ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'une infirmière va pas avoir les mêmes besoins en termes d'hypnose qu'une psychologue ou que quelqu'un comme moi qui est complètement outsider au départ. Donc, quelle formation choisir, ça reste malheureusement très compliqué.
Justement, j'avais la question par rapport aux dispenses, selon les modules, si on est déjà diplômé en tant qu'infirmière, il peut y avoir des dispenses sûrement de modules, en fait.
Pas à ma connaissance, non. Et c'est un... l'hypnose, ça devient une profession dans le sens où il y a une... quand même une cohérence dans ce que les gens font, il y a un langage commun, il y a des choses qui sont communes, mais j'ai perdu le fil.
À savoir si
ah, les modules
En fait, c'est que j'avais en tête, par exemple, quelqu'un qui a suivi, qui a déjà le diplôme d'aide-soignant, peut en fait être dispensé pour faire infirmière.
Ça devient une profession, mais c'est aussi et surtout une industrie, la formation. Donc une infirmière va faire le cursus complet, comme même un psychiatre qui fera une formation en hypnose ne sera dispensé d'aucun module.
D'accord.
Voire même on lui expliquera qu'en fait il connaît rien, qu'il a fait 10 ans d'études pour rien. Mais ça c'est autre chose. Ouais. La formation en hypnose c'est quelque chose de problématique quand même. Et je sais pas comment orienter les gens. Autrement qu'en amenant les questions, c'est quoi vos attentes, c'est quoi votre projet derrière, c'est quoi votre expérience. etc., etc. Le budget, parce qu'une formation en hypnose, on parle de 10 000, 15 000 euros au bas mot, quoi. Sans parler des formations complémentaires.
Pour la formation de base, il faudrait...
au moins, c'est entre 5 et 10 000 euros pour une formation initiale qui tient la route. Je ne dis pas qu'elles valent tout leur prix, mais les prix, c'est à peu près ça, quoi. C'est à peu près ça.
Alors, j'ai entendu déjà un précédent audio concernant la voix, donc avec deux autres de vos collègues.
Oui, avec Lucie Chabot et Valérie Sten. Ouais.
Voilà, et c'est surtout ça qui m'a motivée à vous interroger pour en savoir plus.
D'accord.
Et parce que justement, il y a l'hypnose, en fait, il y a l'hypnose, la voix est très importante.
Oui, oui.
On pense le regard... il n'y a pas que le regard, puisque la question c'est est-ce qu'on peut hypnotiser quelqu'un uniquement par la voix ou uniquement...
Sans passer par le formalisme, comme on peut faire en séance, regarder un point, fermer les yeux, soyez attentive à la respiration, des choses comme ça, très très techniques. Est-ce qu'on peut amener quelqu'un dans un état d'hypnose sans passer par ça, uniquement avec la voix, le langage, le regard, etc. Oui, d'une certaine manière on peut. Mais est-ce qu'on peut appeler ça de l'hypnose ? Ça, je sais pas. C'est aussi quelque chose qui est controversé, qui est beaucoup discuté encore aujourd'hui depuis très longtemps. C'est un débat qui sera jamais clos parce que la question, c'est où est-ce qu'on décide qu'une personne est en hypnose ou pas ? Est-ce que c'est l'hypnotiste qui va dire la personne est en hypnose ou pas ? Ou est-ce que c'est la personne qui va dire je me sens différente, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose ? Ou au contraire, il ne se passe rien. Et le fait d'hypnotiser sans le dire, avec la voix, avec le regard, avec la gestuelle, avec des mots, avec la répétition, comme je fais, vous voyez, je module ma voix, je dis avec, je fais des répétitions un peu rythmiques, ça peut emmener dans un confort, ça peut emmener dans quelque chose qui berce, ou mais surtout qui va être destiné à influencer. Ça va plus être quelque chose qui se fait, qui va être une conséquence de ce qu'on laisse venir dans sa voix. Si je me laisse aller un peu à l'émotion de la personne que j'écoute, une personne qui est un peu, je sais pas, qui est un peu triste ou un peu énervée, malgré moi, je vais m'imprégner de son émotion et avoir un ton de voix qui lui parle, qui fait écho à ça. Et ça peut amener la personne à aller plus loin dans ce qu'elle est en train de vivre. Ça répond clairement à votre question, quoi.
Oui,
c'est vraiment une question qui est très très difficile à traiter, quoi. Donc, mais concrètement, par le travail de la voix, du regard, etc., on peut déjà obtenir ne serait-ce que l'attention des personnes. Par exemple, une assistante scolaire, avec quelques techniques de communication, peut déjà résoudre des conflits, faire de la médiation, apporter une écoute et une pédagogie différente.
Alors justement, ayant été dans le domaine de l'accompagnement auprès de collégiens, j'ai remarqué moi-même en fait que le toucher est important aussi, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de parler à voix haute lorsqu'il y a déjà un adulte dans la classe qui va parler. Et c'est pour ça que pour moi, c'est relié aussi à la méthode d'hypnose. Enfin, je ne vais pas dire que j'hypnotisais, mais...
Non, mais qu'il y a quelque chose...
Au niveau du contact, de la communication, ça peut être une approche aussi qui est très importante pour des élèves notamment qui ont un trouble TSA ou qui ont besoin d'être rassurés, par exemple, ne serait-ce... Et aussi communiquer pour leur dire « je suis là ». Ça peut être la main sur l'épaule.
Le toucher, oui. Et surtout, aujourd'hui, ce qu'on comprend de l'hypnose, ce qui se dit d'une manière assez consensuelle au niveau de l'hypnose, c'est que c'est basé surtout sur des éléments de communication, donc le toucher, donc la voix, donc le regard, le ton de la voix, tout ce qui est paraverbal. Donc le toucher est extrêmement important, mais aussi très problématique, on peut en parler après. Et ces éléments de langage, verbal et non-verbal, permettent d'orienter l'attention d'une personne vers une idée, vers une émotion, vers quelque chose de précis, qui peut devenir, et c'est là qu'on va commencer à parler d'hypnose, qui peut devenir l'unique préoccupation, la seule chose qui existe pour la personne. Comme si je suis en hypnose focalisée sur revivre un souvenir, imaginer une situation, ou des choses comme ça, il peut arriver qu'il n'y ait que cette image, que cette pensée, et que le reste disparaisse complètement. Ce qui est intéressant pour les apprentissages. Par contre, le toucher, alors avec des enfants qui ont des TSA, ça peut être quelque chose qui les stresse. Il y a des enfants, parce qu'on parle des enfants, mais c'est vrai aussi pour les adultes, qui sont maltraités, qui sont battus, qui ont peur, qui sont abusés. Donc le toucher peut être à la fois rassurant, mais aussi très intrusif, très anxiogène, suivant ce qu'ont vécu les personnes, suivant comment c'est amené. Mais ça me paraît évident, et même, enfin, il y a beaucoup de choses dans l'hypnose qui relèvent de la communication intuitive, instinctive, naturelle. Donc le toucher, le toucher exprime énormément de choses. Il y a une main sur l'épaule, un toucher bref du bout des doigts sur l'avant-bras, rassure, effectivement.
Ouais. Un peu rassuré, ou au contraire, justement, en voyant la réaction.
C'est ça.
C'est ça, c'est une des qualités, justement, de l'hypnothérapeute.
Oui.
D'être vraiment à l'écoute, pas que de ce que dit la personne, mais...
Une écoute profonde, si on veut.
De l'observation.
D'écoute et d'écoute un peu de la tension, de la vibration de la personne, en quelque sorte. Quelque chose qui existe, qui va être travaillé de manière très formelle, mais ce serait plus la PNL que l'hypnose qui enseigne ça, encore que c'est très difficile de dissocier les deux. C'est-à-dire plus les techniques de communication, vraiment, qu'on va retrouver aussi en psychologie ou dans d'autres méthodes où les thérapeutes apprennent à être ouverts, à être écoutants et à se mettre au diapason de la personne qui reçoit. Avec toutes les difficultés qu'on peut avoir, parce qu'on peut être parasité par la fatigue, par des tas de choses.
Alors justement, j'avais noté ailleurs mes questions sur les qualités de l'hypnothérapeute.
Les qualités de l'hypnothérapeute. Les qualités supposées de l'hypnothérapeute. Alors je vais le dire comme ça me vient, mais ça reviendrait un peu à décréter qu'un hypnose, ça doit être comme ci, comme ça. Mais on est des êtres humains. Je pense pas qu'il y ait des hypnos qui prétendent être plus vertueux, plus sages que la moyenne des gens. Mais des qualités humaines et des compétences qui se travaillent, je dirais d'abord l'écoute. Mais c'est aussi vrai pour les métiers du commerce, par exemple. Ça commence toujours par savoir ce que la personne veut, ce qu'elle attend. Et l'écoute, c'est aussi permettre la libération de la parole, des affects, des tensions, des émotions... des peines, toutes ces choses-là. Donc l'écoute est très très importante. Et l'écoute, c'est l'ouverture, c'est la bienveillance. J'écoute, mais j'ai pas d'opinion sur ce qui est dit. C'est un idéal. En tout cas, même si j'ai une opinion, elle va pas être prise en compte sur le moment. Et l'idée, c'est vraiment que la personne puisse exprimer ce qu'elle a dans la tête, sur le cœur, etc. Donc l'écoute, l'attention, la bienveillance, qui sont des mots un peu fourre-tout, mais qui restent quand même, pour moi, très pertinents. Je pense même que c'est plus important que la technique d'hypnose, savoir recevoir les personnes. Une personne qui se sent écoutée, a confiance, elle a déchargé les tensions, l'hypnose va être plus facile.
C'est mettre la personne en confiance, ce sont les savoir-être, en fait.
Oui, des savoir-être, oui. Ouais. Et mettre la personne en confiance, il faut mériter la confiance, puis il faut la justifier derrière. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui va m'hypnotiser, qu'est-ce qu'elle peut me faire, cette personne? Quelle sensibilité j'ai à l'hypnose sur le moment avec cette personne dans ce contexte, par rapport aux suggestions que je demande à ce qu'on me dise? Il y a aussi, je dirais que de ne pas être... De ne pas être un pervers, un agresseur, c'est une bonne qualité aussi, quoi. Enfin, c'est une qualité par la négative. Mais au-delà de l'écoute, il y a quand même une idée de toute puissance derrière l'hypnose. Et les gens vous donnent du pouvoir. Après, c'est à l'hypnothérapeute de refuser le pouvoir qu'on lui donne, de ne pas se laisser inviter dans une posture de gourou. Mais beaucoup de gens en situation de vulnérabilité, des personnes désespérées, il y en a beaucoup, enfin à l'instant T, quoi, quand ils viennent en séance, ce ne serait pas difficile de les manipuler, ces personnes.
Ouais. Et dans le public que vous accueillez, donc vous accueillez en général, à ce que j'ai compris, des adultes?
Oui, principalement.
D'âge
Ou plutôt de mon âge, entre 40 et 50 ans en moyenne.
40 et 50 ans.
Quelques personnes plus jeunes depuis 2 ou 3 ans. Plus d'ados, plus d'enfants.
Donc essentiellement des ados. Et les personnes âgées
J'en ai de temps en temps.
Dans ma vie aussi.
Ouais, j'en ai de temps en temps.
Enfin, quand on appelle âgé, je dirais...
Bah, âgé si... ou senior au-delà de 60-70 ans, quoi.
Voilà, 60-70 ans. Ouais. Parce qu'en fait... Comment expliquer que les personnes de cet âge-là ne viennent pas forcément vous voir?
Peut-être qu'elles ne savent pas que j'existe, peut-être que des seniors ils peuvent être un peu sur leurs acquis de ce qu'ils ont toujours connu. Enfin, c'est tant que ça marche. Et souvent, des seniors que moi je vais avoir, en général, ils sont recommandés par leurs enfants. Ou souvent, il y a la famille qui aide un peu à faire la démarche. Beaucoup connaissent l'hypnose, dans ceux que j'ai rencontrés, ont connu il y a longtemps, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Donc les attentes sont plus liées à des pratiques qui seraient plus liées au magnétisme, à des choses comme ça. Il n'y a pas les mêmes attentes. Ouais. Il y a vraiment, entre les générations, c'est pas la même chose. Des ados, par exemple, ils ont vu des vidéos d'hypnose, voire étaient dans des soirées où il y a des spectacles, des trucs comme ça. Donc, ils ne posent aucune question, ça les impressionne pas, ça leur fait pas peur. Enfin, c'est peut-être l'âge aussi qui fait que c'est assez... L'imagination est débordante. Il y a, l'immersion est facile entre la télé, les jeux vidéo, les différentes expériences. Mais c'est hyper intéressant de bosser avec des ados au niveau de l'hypnose parce qu'on fait que de l'hypnose avec des ados. En fait. On discute très peu, il n'y a pas les mêmes besoins d'écoute chez les ados. Enfin, le besoin d'écoute se traduit différemment. Il va plus se traduire par le jeu.
D'accord, par le jeu, oui.
Après, il n'y a pas tellement d'hypnos qui sont réellement spécialisés enfants-ados. Il y en a quelques-uns. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est dommage parce que entre un ado qui fait les séances à 15 ans et un senior qui les fait à 70 ans, bah, il y a peut-être 55 années de vie qui auraient pu être plus faciles.
Et les ados viennent poussés par leurs parents ou vraiment
C'est variable. Hein. Il y en a quelques-uns qui demandent. Où vraiment ils sont demandeurs, ils veulent l'hypnose parce qu'ils pensent que c'est de ça qu'ils ont besoin. Ou alors c'est les parents qui proposent, mais dans tous les cas, si l'enfant n'est pas volontaire, ça m'est arrivé une ou deux fois, donc j'y suis plus attentif que l'enfant, enfin l'ado, quoi, ne sache pas pourquoi il est là, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe, mais non, moi j'ai pas de problème. Et là, c'est vraiment le nœud du problème, il est dans... la différenciation entre les attentes des parents et les attentes des enfants, qui sont souvent complètement différentes. Les priorités ne sont pas les mêmes. Les parents voient des problèmes, mon fils mange pas ses haricots verts, ma fille fait pas ses devoirs en maths, voilà, programmer lui le cerveau, enfin c'est en forçant un peu le trait, et puis l'enfant va dire non, ça va.
Donc dans ce cas-là, vous pourriez travailler plus avec vos parents, en fait, non ?
Dans ces cas-là, c'est assez rare que la séance soit écourtée, mais ça peut arriver. Hein, si l'ado, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, si vous n'avez pas envie, si vous estimez qu'il n'y a pas de problème, on arrête là pour aujourd'hui, quoi. Voilà, et je laisse la porte ouverte. Je serais tenté, évidemment, de dire... De toute façon, quand il y a des problèmes avec les enfants, il faut travailler sur les parents. Les parents qui demandent des séances pour leurs enfants, c'est pas les enfants qui ont besoin des séances, c'est les parents. Mais c'est un gros raccourci, en fait. Ça n'a aucun sens de dire ça. C'est des choses que j'ai entendues, que j'ai crues, mais non, on n'en sait rien. Des gens que vous voyez 3-4 fois en moyenne, même 10 fois sur toute une vie, vous voyez 10 fois en moyenne maximum hein, chez les hypnos, sur des durées qui sont souvent autour de moins de 6 mois quand même, peut pas dire qu'on connaisse les gens. Donc on ne sait pas de quoi ils ont besoin, on ne connaît pas leurs problèmes.
Et justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser des patients? Soit parce que vous avez votre planning plein pour les mois à venir, ou parce que vous ressentez que vous... une histoire de feeling, en fait.
Alors, ça m'arrive de décliner des demandes, de moins en moins, parce que je pense que je suis plus... les gens arrivent mieux à identifier ce que je fais. Peut-être que j'en parle mieux, ou peut-être que je commence à avoir un peu de réputation dans la ville, je m'en rends pas compte. En tout cas, refuser une demande, ça va être lié à la demande elle-même, mais plus qu'à la personne. Ça va pas être une question de feeling, mais si quelqu'un me dit... je sais pas, je suis schizophrène avec des tendances suicidaires et je voudrais arrêter l'héroïne, par exemple, bon, ça existe, hein. Là, je vais dire, moi, je suis dépassé avec ça, je suis pas compétent, quoi. J'ai pas le niveau. Si la personne est recommandée, mais même un profil comme ça recommandé par un soignant, je le prendrais pas.
Justement, est-ce qu'on peut tout soigner avec l'hypnose ?
Je pense pas, non, je pense pas. Déjà qu'on ne peut pas tout soigner avec la médecine, alors encore moins avec l'hypnose. Non, non, l'hypnose a des résultats variables. Quand ça marche très bien, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, vraiment pour aller dans les exagérations de choses qu'on peut entendre de temps en temps, mais qui ne sont pas représentatives, mais pour forcer le trait, avec l'hypnose, on ne peut pas faire grossir les seins, on ne peut pas faire changer la couleur des yeux, par exemple. On va pas arrêter la prolifération de cellules cancéreuses par l'imagination, par l'esprit. Des douleurs chroniques, par exemple, on peut les réduire avec l'hypnose, mais elles reviendront quand même parce que c'est chronique.
Donc, on peut être attiré à venir en fait chercher un bien-être, c'est-à-dire estomper des douleurs qu'on peut ressentir.
Oui.
Par exemple, quelqu'un qui est en phase cancer, enfin qui a un cancer, qui est en chimio, peut venir vous voir, mais ça ne va pas
c'est là qu'il y a vraiment des choses à éclaircir au niveau des attentes des gens, parce que il faudrait pas faire le camelot sur le marché de l'espoir non plus. Quelqu'un qui est malade, qui est mourant, a envie que tout fonctionne. Donc avec l'hypnose, on peut réduire la pénibilité du traitement. La chimio, par exemple, aider à peut-être à retrouver un peu d'appétit, avoir un meilleur sommeil, à accepter la maladie, à accepter qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Enfin, il y a un ensemble de deuil qui vient avec ça. On peut dire que indirectement, peut-être, il y a une forme que la guérison indirectement pourrait être favorisée par l'hypnose, par le moral, par le bien-être, par l'amélioration de la récupération. Ça resterait à prouver quand même. Par contre, pour la souffrance morale, oui. Là, il y a un vrai apport. Ne serait-ce que l'écoute, d'ailleurs.
Alors après, si on croit vraiment que le moral est lié au physique et au mental, voire à d'autres dimensions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont branchées sur la spiritualité, qui pensent à l'être dans sa globalité, en fait,
ça pourrait... Je ne sais même pas comment on pourrait penser autrement, quoi. Le corps, le moral, quelle différence, quoi. Une pensée anxiogène, elle va vivre dans le corps de la personne aussi. Alors, est-ce que ça vient du corps ou de la pensée? Après, est-ce que l'esprit est capable de soigner le corps? Je ne l'ai pas encore vu. Il y a des miracles, ça existe, mais ça reste des anomalies quand même. C'est sûr que par la suggestion, on peut accélérer, ralentir les battements du cœur, la respiration, les afflux sanguins se déplacent. Ça ne veut pas dire qu'on a un contrôle sur ce qui se passe. C'est-à-dire que si le pouls de la personne s'apaise, ralentit, on ne peut pas le faire ralentir jusqu'à l'arrêt total. Et d'ailleurs, il ne va pas ralentir parce que je suggère qu'il se ralentit. Ça va être une conséquence d'un état qui s'installe. Un doigt coupé ne va pas repousser pour l'hypnose. Un bras cassé ne va pas se réparer plus vite avec de l'hypnose. Je ne pense pas. Certains l'affirment, mais il manque des preuves, quoi.
Après, j'ai entendu parler de... Je ne sais pas si c'était en Inde ou quelqu'un qui a pu se faire repousser un peu un membre. tout ça reste à vérifier.
Ouais, je sais pas, je sais pas. Mais si c'est vrai, je pense que tous les scientifiques vont se jeter dessus pour essayer d'avoir un prix Nobel, prouver que ça existe. Je crois pas que ce soit le cas, mais... De la même manière que si un scientifique découvrait qu'il y a des extraterrestres, tout le monde s'empresserait d'étudier le truc plutôt que d'essayer de le cacher.
Alors j'ai d'autres questions justement par rapport à... Est-ce que vous travaillez par exemple en... Vous accueillez quelqu'un par exemple qui n'a pas confiance en lui ou en elle, et est-ce que vous proposez une trame sur plusieurs séances ?
Pas forcément. Je le faisais avant, mais... C'est aussi une vraie difficulté de la pratique de l'hypnose. Hein. C'est impossible de dire à l'avance combien de séances il faudra. Par contre, c'est assez facile de voir si ça sert à rien. C'est-à-dire qu'après une séance d'hypnose, la personne est capable de dire si ça a servi à rien ou si ça va mieux. Mais en général, ça va mieux. Pour tout ce qui est lié à la confiance en soi, ce sont des choses qui peuvent être améliorés, débloqués au niveau de l'hypnose, parce que souvent il y a pu y avoir des, je sais pas, je dis n'importe quoi, des humiliations, une éducation, des brimades, enfin toute la censure, des choses qu'on peut intérioriser, donc des verrous qui peuvent s'ouvrir à travers l'hypnose, ouais, ça existe, mais il reste après à s'habituer à la confiance en soi retrouvée, que l'entourage s'habitue. Parce que quand vous n'avez jamais rien dit, vous n'êtes jamais plaint, vous n'avez jamais parlé trop fort, le jour où vous commencez à prendre de l'assurance, bah, les gens vous font bien sentir que c'est pas normal. Et la limite dans ce domaine-là, c'est souvent l'environnement, l'entourage de la personne. Donc prévoir sur plusieurs séances, ça me paraît extrêmement risqué, quoi. Ce serait mettre une situation unique, individuelle, et unique à l'instant T dans quelque chose de très général, et je pense pas que les gens viennent à l'hypnose parce qu'ils se retrouvent dans les statistiques. Souvent au contraire.
D'accord. Donc après, vous demandez en fait aux personnes de vous rappeler, ou de vous donner des nouvelles.
Oui, oui. Après un premier rendez-vous, sauf si la personne demande expressément à revenir, ce qui arrive aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Mais généralement, les gens sont se sentent assez à l'aise avec l'idée qu'on laisse passer quelques jours, une semaine, sauf s'il y a une question, n'importe quoi, à ce moment-là. Aucun intérêt d'attendre pour se parler. Mais au bout d'une semaine, 10 jours, que la personne me donne des nouvelles, les gens le font, pour me dire comment ça va, et là, on envisage la suite. Donc ça peut être d'autres séances, ça peut être réorienté, ça peut être suffisant aussi, ça dépend vraiment des gens. En tout cas, que les gens repartent, ils ne se sentent pas engagés, ils ne se sentent pas obligés.
D'accord, mais systématiquement, vous proposez à la personne de vous redonner des nouvelles.
Ah oui, ouais.
Ne serait-ce que pour savoir si elle est bien rentrée chez elle, qu'elle n'est pas...
Par exemple, oui. Puis savoir comment ça va. Ouais. Parce que sinon, comment je sais si ce que je propose fonctionne, si les gens ne me donnent pas de retour.
Quels outils utilisez-vous pour hypnotiser, parce qu'on peut avoir l'image du pendu que je vois là devant.
Le pendu, c'est un support, mais l'outil de travail pour vraiment mettre une personne en hypnose, c'est la personne elle-même, c'est-à-dire c'est son attention et sa sensibilité à la suggestion. Enfin, c'est 99% de l'équation, c'est la personne. Est-ce que la personne va me laisser faire ou pas, en fait, c'est surtout ça. Alors, il y a des gens qui voudraient laisser faire mais qui n'y arrivent pas, ça c'est l'expérience qui permet de préciser les choses, mais c'est toujours une question d'attention. Donc généralement, se concentrer sur une tâche simple et répétitive et qui va donner un bénéfice immédiat. Par exemple, si je regarde un point, bon, a priori c'est pas hyper intéressant, mais s'il y a quelqu'un à côté de moi qui me dit « mais vraiment, regardez le point, ne voyez que le point, concentrez-vous, restez les yeux bien ouverts, etc. » qui vous aide à maintenir votre attention, au bout de quelques secondes, il y a déjà un calme qui s'installe, il y a déjà une focalisation, il y a une fixité dans le regard, il y a une espèce de entre la rigidité et la souplesse dans les muscles, une espèce de fixité comme ça qui s'installe naturellement. Et après, par exemple, si je constate que la main de la personne a tendance à s'agiter un peu, tiens, maintenant il va y avoir des mouvements automatiques, ça va s'amplifier, etc. Donc c'est l'observation de la personne qui me dit, tiens, là il y a quelque chose qui se passe, on va mettre le focus sur cette chose-là. Si je vois qu'une personne est étalée dans le fauteuil dès le départ, on va dire, maintenant le corps devient lourd, de plus en plus lourd, etc., etc. Si la personne a tendance à cligner beaucoup des yeux pendant la discussion au début de séance, il y a des chances que le truc des paupières très lourdes et de l'endormissement fonctionne assez bien. Donc l'outil, c'est vraiment l'adaptation, l'observation, l'écoute et le renoncement à la toute-puissance qu'on croit avoir en tant qu'hypnotiseur. Si une suggestion fonctionne, c'est parce que quelque chose a autorisé la suggestion. Mais ça dépend jamais de moi. Ça peut dépendre de mes choix techniques, etc. Mais globalement, si la personne arrête une suggestion, moi, j'ai aucun moyen. Ce qui fait que les résultats sont variables, d'ailleurs.
Et est-ce que mettre une ambiance musicale peut aider la personne à...
Oui, moi, je pense qu'il y a des gens que ça peut aider. Il y a des gens que ça crispe aussi.
Donc là, pour ça, c'est pareil, il faut que vous connaissiez...
Il faut connaître la personne. Il faut lui demander. Puis après, il faut surtout expérimenter, parce que, je sais pas, quelqu'un qui a eu l'habitude de toujours se faire hypnotiser, par exemple, avec un autre ou une autre hypnothérapeute, je sais pas, qui a déménagé, par exemple... Est-ce que c'est une bonne chose de continuer avec la musique? Est-ce que la personne a besoin qu'on change ses habitudes ou pas? Peut-être des gens qui vont dire, comme ça, je pense que je me sentirais mieux avec la musique, et finalement, pendant la séance, se disent, finalement, je préférerais sans. Je pense pas qu'il y ait une règle précise à ce niveau-là. Ça dépend de ce qu'on veut faire.
Alors après, je passe au salaire. Comment vous faites pour déjà en débutant, pour amortir le prix de la formation, vous estimez qu'au bout de combien d'années,
ce qui se dit, c'est que pour lancer une activité de thérapeute, c'est 3 ans. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est à peu près ça. Maintenant, c'est très difficile d'avoir des statistiques fiables sur le sujet. Mais je dirais que les 2 premières années, il faut se préparer à travailler gratuitement déjà, faire des démonstrations, des salons, parler, attendre, se former, etc. Donc en combien de temps rentabiliser la formation, ça je ne saurais pas dire. Un hypno qui tourne bien en moyenne arrive à dégager en moyenne sur l'année dans les 2000 euros par mois net. Sur l'année, c'est des bonnes années, je pense, déjà.
Alors, par exemple, une semaine...
Une semaine idéale, ce serait une semaine avec une dizaine, douzaine de rendez-vous, quoi, à peu près. Ce qui ne représente pas un temps de travail énorme, de travail présentiel sur des séances d'une heure, une heure et demie, mais qui est un travail qui peut être rapidement épuisant aussi.
Voilà, j'avais ça en tête. Vous-même, en fait, parce que vous parlez d'observation, donc il faut vraiment que vous soyez en observation des personnes.
Ouais.
Donc, ça demande beaucoup d'énergie, en fait.
Ouais.
Est-ce que vous régulez, vous disposez de pauses?
Oui, je fais des pauses d'une heure entre deux rendez-vous. Comme ça, si la séance s'éternise un peu, ou si la personne après arrive en avance. Bon, ça évite que les gens se croisent, et moi je peux souffler, quoi. Voilà. Alors souffler, souvent, c'est aller prendre l'air, ou dormir un peu, enfin manger, je sais pas, moi, regarder la télé, peu importe, mais il y a besoin de se recharger. Vraiment, la gestion de l'énergie dans cette activité, elle est fondamentale. Maintenir l'attention, dominer ses affects, au moins sur l'instant. Parce qu'une personne qui vous raconte des fois des histoires, les gens vous racontent des histoires on se dit mais ça n'existe pas, c'est pas possible, donc qui choquent, qui vont bousculer tout un tas de choses qui peuvent nous faire souffrir parce que peut-être on a vécu aussi les mêmes choses. Il y a des choses qu'on a tous vécues, je sais pas, quelqu'un vous parle d'une moquerie au collège ou des choses comme, on sait ce que c'est, on peut se projeter, donc ça consomme énormément d'énergie parce qu'on est là pour la personne, on n'est pas là pour.
Puis aussi pour essayer de déterminer pourquoi la personne vient vous voir.
Pourquoi la personne vient nous voir.
Parfois, la personne a peut-être du mal à se livrer.
Bien sûr, ouais.
Vu que vous êtes un parfait inconnu. Et...
Qui avec une pratique qui reste encore sulfureuse aujourd'hui. Donc la personne a besoin de temps, la personne a besoin de savoir qu'on va l'écouter. Et. Comment dire ? J'ai perdu le fil.
Il y a une confiance réciproque.
Oui, une confiance réciproque.
Qui doit s'instaurer parce que vous-même aussi, vous devez avoir confiance que vous pouvez aussi. C'est peut-être affirmatif, mais c'est une question.
Je dois quand même avoir confiance dans ce que je fais, dans mes capacités.
Parce que dans le cas où vous pensez que vous ne pouvez pas ou plus aider la personne, est-ce que vous la réorientez dans ce cas-là ?
Oui.
Suivant la
demande de départ, qui peut être extrêmement vague, enfin, même souvent, il n'y a pas vraiment de demande, en fait. Il y a plutôt une peine, quoi. Une souffrance, une plainte, comme on dit. La personne souffre de quelque chose, elle en a marre de souffrir, quoi. Voilà. Mais réorienter, oui. Ouais. Donc ça implique de connaître les professionnels du secteur, qui fait quoi, où, comment. Il y a beaucoup de monde, même dans une petite ville comme Mâcon ou autour de Mâcon. Il y a quand même du monde, mais il faut connaître les gens un peu, quoi. Et je dirais que la demande de départ qui est floue, qui est vague, c'est normal. Et c'est peut-être un défaut dans beaucoup de formations en hypnose de vouloir préciser les choses dès le départ, alors qu'une personne qui est en souffrance ne peut pas vouloir quelque chose. Enfin, c'est impossible.
Parce qu'elle-même peut aussi se chercher et ne pas savoir
où aller, pourquoi je souffre, pourquoi je subis ça, pourquoi ça s'est passé comme ça pour moi, l'ambivalence dans, par exemple, les addictions ou des choses comme ça. Je souffre, mais en même temps, j'en ai besoin. C'est souvent pas très clair, quoi. Et si on n'est pas capable d'écouter ça, ça va être compliqué d'aider les gens et d'obtenir leur confiance.
La confiance, l'écoute, donc c'est ce que j'entends, c'est la base du métier, en fait.
Ah, je pense que c'est vraiment les fondations du métier. C'est l'humanité, quoi. Même si on ne se comporte pas avec quelqu'un qui vient pour une séance d'hypnose comme on se comporterait avec quelqu'un qu'on connaît, etc. Mais il y a quand même quelque chose de commun, c'est la rencontre, quoi. L'humanité. Il n'y a pas tellement de gens qui sont dépourvus d'humanité, donc je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui seraient incapables de faire ce que je fais. Après, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille, et c'est une carrière qui est ponctuée de doutes, aussi d'échecs, de galères, etc. Notamment de démarrage, hein, parce que se faire connaître...
C'est le plus difficile, vous penseriez, en fait ? Ou est-ce qu'il peut y avoir
Je pense que c'est une des plus grosses difficultés, ouais. Déjà, de prendre la décision de démarrer. Qu'après, la décision, c'est vous qui la rendez bonne par la suite, quoi.
Et si au bout des 2 années à avoir travaillé, qu'on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de patients qui viennent... Dans ce cas-là,
c'est normal et il faut continuer.
Il faut persévérer. Donc la persévérance aussi au départ est nécessaire.
Mais le temps est long. Hein. Les deux, trois premières années, c'est quand même... Ça reste une insécurité financière constante. Hein. Il y a des gens qui s'éclatent avec ça. Moi, je sais que ça me gêne pas. La régularité du salariat me dérangeait plus, en fait. L'impression d'être un peu condamné à un truc. Mais je sais pas quoi dire. Il y a beaucoup d'hypnos qui ont un travail à temps partiel à côté, un travail salarié à temps partiel à côté, et je pense que c'est le meilleur compromis. Moi, si j'avais pas cette incapacité à... j'ai un problème avec l'autorité, clairement. Si j'avais pas ce problème-là, si j'avais moins de problèmes à bosser dans le collectif, je pense que je l'aurais fait. Parce que je pense que ça assainit énormément la pratique. À partir du moment où vous n'avez pas le couteau sous la gorge au niveau de l'argent, bah vous avez moins de chances de promettre n'importe quoi, d'accepter n'importe quel boulot. Donc, pour moi, l'idéal, c'est ça. C'est un boulot à temps partiel et développer son activité à côté et garder un revenu sécure à côté. Je pense que c'est le plus raisonnable pour quelqu'un qui est en reconversion, qui a des enfants, etc. Je pense que le compromis est pas mal.
Ce que je pense aussi, mais après, c'est vrai que ça peut faire rêver de vivre entièrement 100%
Bien sûr.
de son
Ouais,
travail.
c'est possible. Après, avant de vivre à 100%, bah, y a quand même une période où il faut s'installer, se faire connaître, apprendre.
J'ai une question justement. Est-ce que vous connaissez des hypnothérapeutes qui ont une autre activité, mais dans le domaine du bien-être, du soin?
Oui, il y en a.
Qui
Bah, alors, en dehors des professions médicales, type infirmière, qui vont faire la triple, voire quadruple journée. Beaucoup de gens font de la thérapie, de l'accompagnement, mais multi cartes, entre guillemets, enfin, je sais pas comment le dire, y a pas de critique dans ce que je dis, qui vont pratiquer de l'hypnose, mais aussi par exemple du massage, mais aussi la voyance, pourquoi pas, enfin du magnétisme, qui vont mêler plusieurs techniques, mais ça va pas leur donner forcément, ça va pas leur amener forcément plus de monde en fait. Souvent, c'est des problèmes liés au manque de communication, quelque chose dont les jeunes thérapeutes ne veulent pas entendre parler parce que ça veut dire vendre, ça veut dire se vendre, mettre en avant, ça veut dire se sentir illégitime, avoir l'impression de mentir. C'est quelque chose pour moi qui fait partie de la formation d'hypnothérapeute. C'est-à-dire toutes les claques que vous prenez en début de carrière vous forgent en tant que praticienne ou praticien.
Alors après, c'est une question personnelle. Vous-même, vous étiez commercial avant
J'ai fait du
de...
commercial, ouais, principalement, de la prévente aussi, puis un peu d'encadrement.
D'accord, donc c'est vrai que ça peut aider à se développer, à permettre...
Ah oui, ouais. Ouais, ça m'a aidé énormément, bien sûr, parce que je savais, enfin, j'ai commencé l'hypnose, je savais faire un argumentaire de vente. C'était pas compliqué pour moi de me mettre en avant et de parler de ce que je faisais, de publier des vidéos, des podcasts et des articles. C'était assez facile pour moi, je savais le faire et j'avais envie de le faire. Mais je pense pas qu'il faille des compétences techniques commerciales très poussées non plus, mais quand même, on ne peut pas faire l'économie de la mise en avant et de la visibilité. Et aujourd'hui, ça se passe sur le web, quoi.
D'accord. Bah justement, ma dernière question, c'était comment se faire connaître. Je proposais déjà des réponses, en fait, avec des articles de presse. Forum bien-être, parce que
Forum
ça se
bien-être.
développe beaucoup. Là, par exemple, il y en a un prochainement dans les environs. Donc, je ne sais pas si je le dis.
On peut le dire, on le dit.
J'ai vu l'information à
À
Griège, donc
Griège,
ce
d'accord.
dimanche.
Ok, ce dimanche.
Et puis,
Donc
donc
Griège,
les...
c'est dans l'un à côté de Mâcon. Ouais, bah c'est toujours intéressant. Après, je dirais que les salons du bien-être, c'est intéressant dans le sens où ça vous permet d'écouter le marché, voilà, comme parlerait un commercial, c'est-à-dire de rencontrer les gens, de comprendre ce qu'ils veulent, de comprendre de quoi ils souffrent, de quoi ils. Ce qu'ils ont dans la tête, ce qui les occupe, en fait, ça permet de comprendre ça. Ça permet de connaître d'autres exposants, d'autres pratiques, de créer un réseau. Mais ça amène rarement des rendez-vous dans l'immédiat. Très rarement. Par contre, c'est extrêmement formateur, quoi. Après, les articles de presse, si vous pouvez d'être interrogé et de passer dans le journal local, ça amène rapidement beaucoup de monde. Ça, c'est vrai, mais ponctuellement. Parce qu'au bout d'un moment, cette visibilité-là, elle s'essouffle aussi. Moi, je suis assez à l'aise sur Internet, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je dirais que d'une façon ou d'une autre, peu importe que ce soit par Internet, peu importe la manière de le faire, c'est de toute personne que vous pouvez rencontrer, c'est de lui parler de ce que vous faites.
Voilà, le bouche à oreille, en
Le
fait,
bouche à oreille, puisque finalement, il n'y a
c'est
que ça.
une personne satisfaite va parler de vous et puis de fil en aiguille, en fait, ça va.
En parler un peu, ouais. Après le temps, déjà, pas tellement de gens vont en parler parce que pas tellement de gens osent avouer qu'ils voient, qu'ils font des séances d'hypnose. Bon, de moins en moins, maintenant, ça commence à être quelque chose de commun, quoi. Des hypnos, il y en a partout, donc ça fait moins peur. les gens normalement estiment normal d'être satisfaits, donc ils vont pas forcément parler de ce qui les a satisfaits. Souvent, ils vont oublier, passer à autre chose. Et puis, même si la cliente que vous avez eue le matin en parle à toute sa famille, bah, qui va l'écouter, pourquoi, comment? Vous pouvez avoir des gens que vous avez rencontrés dans un salon du bien-être qui vont garder votre carte pendant 2 ans dans leur portefeuille et avant de franchir le pas. Donc il y a vraiment une nécessité à installer quand même un minimum de sécurité financière et à s'armer de patience. Ça prend du temps, donc c'est de la frustration, ça va jamais assez vite. Et c'est toujours au début de la pratique que vous avez le plus d'annulations, de mauvais payeurs, de gens, vous ne savez pas trop pourquoi ils sont là.
C'est justement pour tester notre volonté de,
ouais,
de travailler.
Peut-être. Mais ceux qui sont encore là après plusieurs années, c'est ceux qui ont accepté ces difficultés-là, qui les ont traversées.
Ouais. D'accord, et bien.
Mais c'est des difficultés qui existent.
Bien, je vous remercie.
Ben avec plaisir. Avec plaisir.
Voilà, j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions.
Ouais. Nous en aurons d'autres questions par la suite, je pense.